Vous êtes sur RTL.
RTL Matin avec Stéphane Carpentier et Agnès Bonfillon est de retour pour le journal.
Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et si vous ouvrez les yeux, on vous envoie d'abord en Australie où les Françaises se posent une question. Est-ce qu'elles vont arriver à gagner la fameuse finale de la Fed Cup ?
À niveau émotion, Isabelle Langer, ce sont les montagnes russes. Vous êtes notre envoyée spéciale sur place, Isabelle. Les Australiennes sont revenues à deux partout, ce qui veut dire que l'on s'oriente vers un double décisif.
Ah oui, on va voir ce double décisif dans quelques minutes. Pauline Parmentier n'a été trop tendre contre Alia Tomjanovic. Elle s'est inclinée 6-4, 7-5. Le coup de poker du capitaine Julien Beneteau n'a pas fonctionné. Mais peut-être c'était une bonne stratégie parce qu'il a préservé Caroline Garcia. Que serait-il arrivé si la Lyonnaise avait joué ce quatrième match et l'avait perdu? Elle aurait dû enchaîner avec le double et cela aurait peut-être été compliqué. Là, elle arrive fraîche et dispose pour épauler Kristina Mladenovic face aux Australiennes Barty et Stosur. Mladenovic est numéro 2 mondial en double. Elle a remporté il y a une semaine le Masters de la spécialité. Mladenovic et Garcia ont souvent joué ensemble. En 2016 notamment, elles étaient les meilleures au monde. Elles avaient remporté 4 titres, dont Roland-Garros. Et nul doute qu'elles ont envie de remporter cette Fed Cup qui vit ses derniers moments sous cette forme-là, puisque eh bien, malheureusement l'année prochaine, on aura le droit à une compétition sur une semaine, comme cela va se faire dans 10 jours à Madrid pour la Coupe Davis.
On a en tout cas de vous entendre tout à l'heure, Isabelle Langer, pour suivre ce double décisif en direct de Perth en Australie pour RTL.
Agnès, le reste de l'actualité, se déguiser comme un voyageur lambda pour visiter les terminaux de Roissy. Le PDG du groupe ADP le fait souvent.
Oui, et hier matin, il n'a pas été déçu du voyage, si je peux me permettre. Une fois au terminal 2E, ce sont tous les longs courriers qui arrivent là, Augustin de Romanet a constaté une attente interminable aux arrivées. Il ne s'est pas privé de laisser un message sur les réseaux sociaux pour faire part de sa colère, de sa consternation. Il tire à boulets rouges sur les moyens de la police aux frontières. Le PDG du groupe Aéroport de Paris a accepté d'en dire plus en exclusivité pour RTL.
J'ai vu une situation catastrophique qui allait en se dégradant, une insuffisance d'agents, un processus mal maîtrisé, un temps de réaction insuffisant. Donc je n'ai pas fait ce message par hasard, je l'ai fait parce que je pense que ADP fait d'énormes efforts, notamment pour son premier client Air France, pour qui la compétitivité des temps d'attente est capitale, et j'ai vu des dysfonctionnements dont évidemment je parlerai avec les responsables, mais qui ont justifié cette petite révolte. Le Premier ministre, il y a 2 ans, a donné comme instruction au ministère de l'Intérieur que les temps d'attente des passeports européens n'excèdent pas 30 minutes et n'excèdent pas 45 minutes pour les passeports internationaux. C'est déjà très long, 45 minutes. Mais lorsque, comme ce matin, on observe qu'on a quasiment 2 heures d'attente, on est obligé de dire qu'on est solidaire des passagers qui subissent ces temps d'attente. Nous sommes en compétition en tant que hub de correspondance et nous avançons dans la compétition avec des boulets aux pieds si nous ne maîtrisons pas les temps d'attente à la police aux frontières.
Un témoignage exclusif d'Augustin de Romanet recueilli par Christophe Ponzio pour RTL. Un jeune étudiant de 22 ans brûlé à 90% à Lyon, en pleine rue, vendredi, il s'est immolé devant le Crous de la ville pour dénoncer la précarité des élèves, la sienne en particulier. Sa bourse d'études venait d'être supprimée. Les syndicats étudiants appellent à une journée de mobilisation après-demain.
De nombreux élus politiques ont finalement décidé de ne pas participer à la marche contre l'islamophobie cet après-midi à Paris.
Le cortège partira à 13h de la gare du Nord et il fait polémique après une dont certains signataires ont une réputation plutôt sulfureuse. En cause également des passages de ce texte dans lequel il est par exemple question, je cite, de loi liberticide. Alors au final, Marie-Bénédicte Allaire, qui va participer à cette marche contre l'islamophobie?
Oui, dans le cortège, aux côtés du collectif contre l'islamophobie en France, on verra les députés La France Insoumise Clémentine Autain ou Éric Coquerel, les communistes Elsa Fossillon et Yann Brossa, des écologistes, des membres des syndicats CGT ou FSU, mais pas le Parti Socialiste ou la CFDT qui n'ont d'ailleurs pas été conviés. Comme l'expliquait vendredi Laurent Berger sur RTL.
Cet appel, il était insignifiable pour nous, très clairement. Ce texte, il a des propos, et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est y compris les signataires.
Allusion au qualificatif de liberticide à propos des lois sur la laïcité ou à la présence d'un imam aux propos violemment antisémites dont la signature a depuis été retirée et qui ont conduit certains des signataires à prendre leur distance. Des polémiques entretenues à dessein, selon l'un des organisateurs, l'élu de Saint-Denis, Majid Messaouden.
On voit bien qu'il y a une tentative de sabotage de cette marche de la part de la fachosphère, de la part y compris d'une partie de la gauche, qui préfère saboter une initiative antiraciste que de participer à une marche antiraciste. On en prend note et ça, on n'oubliera pas.
Quoi qu'il en soit, les organisateurs de la manifestation n'entendent pas en rester là. Ils affirment qu'ils veulent structurer leur mouvement.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Peut-être une avancée dans la crise des hôpitaux juste avant la manifestation nationale prévue jeudi. Selon nos confrères du journal du dimanche, le gouvernement serait prêt à lâcher du lest et à reprendre la dette des hôpitaux, soit 30 milliards d'euros.
Dans un instant, c'est la suite des matins du week-end sur RTL. Restez bien avec nous. Quand deux Olympiques se rencontrent, c'est forcément la flamme qui s'allume. Marseille-Lyon, c'est ce soir et c'est Agnès Bonfillon, l'auteur des textes.
RTL Matin.
Il est 9h07, RTL Matin avec Stéphane Carpentier et la suite du journal de la poétesse Agnès Bonfillon.
Football, soirée d'Olympico, donc ce soir en clôture de la 13e journée de Ligue 1.
Les Marseillais reçoivent les Lyonnais, l'occasion en cas de victoire pour l'OM de mettre 6 longueurs à leurs adversaires. Mais ce soir, l'homme vers lequel tous les regards seront tournés ne sera pas sur le terrain, pas complètement, sur le banc, puisqu'il s'agit de Rudy Garcia. Rudy Garcia qui a quitté le Vélodrome en fin de saison dernière. Désormais, il entraîne, vous le savez, l'OL. Et chez les supporters marseillais, comment dire, la rancune est un peu tenace. Il risque de le sentir passer ce soir. Écoutez Titi, inconditionnel de l'OM.
Il va recevoir un accueil des plus chaleureux de la part des Marseillais, comme on sait bien le faire ici à Marseille. Voilà, pour rester honnête et poli. Oui, il va y avoir certainement des banderoles, des insultes. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il a détruit le club pour les 10 prochaines années, quoi. Il a dilapidé une enveloppe de 200 millions à recruter des joueurs qui sont pratiquement invendables. Ce qu'il a fait, c'est juste une honte pour le club. Moi, j'y en veux terriblement parce que je trouve qu'il n'a pas de figure. Parce qu'il y a 4 mois, il était ici. On l'a licencié, d'accord. Il part avec un chèque de 10 millions et 3 mois après, il signe à l'ennemi et il revient comme ça ici, comme si de rien n'était.
Voilà, voilà, une bien belle ambiance. Je peux pas tout faire. Propos recueilli par Hugo Hamelin pour RTL. Ce choc des Olympiques entre Marseille et Lyon, justement, le baromètre Odoxa pour RTL et Groupama s'y intéresse cette semaine. Et c'est très clair, Eric Silvestro, il n'y a pas que le classico qui passionne.
Effectivement, Marseille-Lyon, c'est le nouveau classique du championnat de France pour plus d'un Français sur deux et 63% des amateurs de foot. Le PSGOM ayant perdu de sa saveur ces dernières années, l'Olympico intéresse désormais et fascine davantage car le duel semble plus équilibré. Autre surprise, la cote de popularité des deux clubs. Lyon, plus consensuel, recueille 64% d'opinions favorables contre seulement 46% à Marseille, qui conserve toutefois un socle de supporters inconditionnels. Et si l'OM a pour lui l'histoire et un stade mythique, l'OL perce grâce à son image, ses performances, son équipe, mais aussi son président, Jean-Michel Aulas. Du coup, 36% des Français voient Lyon l'emporter au Vélodrome ce soir, contre seulement 15% pour une victoire marseillaise. Mais c'est le nul qui recueille le plus de suffrages, 44%.
Eric Silvestro du service des sports de RTL. Marseille, Lyon, coup d'envoi à 21h. Un match à suivre sur RTL dans Soir de Ligue 1, le Parisien aujourd'hui en France évidemment. Les autres résultats de ce samedi pour la 13e journée de Ligue 1. Le PSG a dû batailler ferme pour l'emporter 2-1 à Brest hier après-midi. Lille fait du surplace en concédant un nul contre Metz, 0 partout, ce que je vous disais tout à l'heure Stéphane. Autre résultat, Monaco remonte 1-0 face à Dijon. Strasbourg corrige Nîmes 4-1 et aucun but durant la rencontre Reims-Angers. Et puisque nous en sommes au résultat, bravo les filles, sachez que l'équipe de France féminine de foot a giflé la Serbie lors du match de qualification pour l'Euro 2021 hier à Bordeaux. 6-0, s'il vous plaît. En voile, sachez que la Transat Jacques Vabre dans la catégorie des monocoques IMOCA a été remportée cette nuit par Yann Eliès et Charlie Dalin. Ils sont arrivés à Salvador de Bahia après 13 jours, 12 heures et 8 minutes de traversée très exactement. Et puis un petit coucou à l'un de nos auditeurs, Stéphane, qui nous écoute assidûment. C'est un passionné de rugby du club de La Rochelle précisément, un certain Quentin. Il est à Lyon actuellement en attendant la rencontre à 12h30 20h30, match du top 14 évidemment. Il nous dit qu'il ne fait pas super beau dans sa zone commerciale, dans son hôtel.
Et on le salue évidemment. Nous allons parler d'un sport qui demande également beaucoup d'intelligence, c'est le cheese boxing.
Ouais, allier le corps et l'esprit. En fait, deux adversaires sont sur un ring et alternent 4 minutes d'échec avec à chaque fois un round de boxe entre. Alors mieux vaut être bon hein, dans les deux. Figurez-vous que cette discipline a été inventée par l'auteur de BD Enki Bilal, qui était présent hein, d'ailleurs hier soir à Paris pour la première compétition de chess boxing. Et vous aussi Romain, vous étiez dans cette salle à l'ambiance survoltée du Cabaret Sauvage pour RTL.
C'est un public chauffé à blanc sous le chapiteau du Cabaret Sauvage. Sur le ring, les combats s'enchaînent, un round d'échecs puis un round de boxe anglaise et ainsi de suite jusqu'au chaos ou à l'échec et mat. C'est le principe du chess boxing, une idée improbable née dans la tête du dessinateur Enki Bilal.
Je cherchais un sport qui représente l'excellence, le meilleur, le plus haut niveau de l'humain. J'ai pensé immédiatement à l'intelligence, à l'esprit de synthèse, à la stratégie, j'ai pensé aux échecs. Et ensuite, immédiatement, par un effet d'oxymore, j'ai pensé à la boxe.
Et l'association de ces deux disciplines est loin d'être folle, selon Paul Duché, vainqueur du premier combat de la soirée.
Je savais qu'il était très très fort aux échecs, donc mon plan c'était de lui donner un maximum de coups au corps pour le faire lâcher quoi. C'est pas fou, c'est juste cohérent en fait, comme les chevaliers en fait de l'époque. Les chevaliers, le corps, l'esprit, tu vois, ils allaient se taper et puis réciter des poèmes, bah là c'est pareil en fait.
Des chevaliers et un public conquis.
Et c'était merveilleux.
Intense, épique, vraiment. Même on connaissait pas vraiment les échecs ou la boxe, on est vraiment dedans et j'ai vraiment beaucoup aimé.
Prochaine étape désormais, les championnats du monde en Turquie, ce sera en décembre prochain.
Le reportage de Romain Houck pour RTL. Et Stéphane, vous avez bien compris, hein, c'est du chess boxing, pas du cheese boxing. Je sais que vous adorez le fromage,
je
mais quand même.
Je vais mettre du fromage au milieu de tout ça, pourquoi pas.
Cheese sur la boxe maintenant.
Merci Agnès, toute l'info, RTL.fr. Les chevaux, c'est Auteuil aujourd'hui. Je vous propose.